Alors, donc, on s'était arrêté à 1 Pierre 4, verset 3. Et puis, la dernière fois, on avait vu, encore, on avait commencé à 1 Pierre 3, verset 18, par rapport à Christ qui avait été prêché aux esprits qui étaient en prison, hein, vous vous rappelez. Et puis, on avait cherché un petit peu à comprendre ce que ça voulait dire, que c'était au travers de Noé, en fait, au travers de la prédication de Noé, que Christ avait été prêché aux esprits en prison, parce que voilà, ces gens ne connaissaient pas Dieu, étaient emprisonnés dans leur propre corps, hein. Et qu'il y en a malheureusement que huit qui ont été sauvés, y compris Noé, Noé qui était le huitième. Et puis on avait vu un petit peu par rapport au baptême, hein, que ça l'a préfiguré le baptême. Cette époque de Noé et du déluge, c'était comme une symbolique du baptême. Et puis ensuite, on avait vu commencer dans le quatrième chapitre qui nous parlait des souffrances que l'on pouvait vivre en tant que chrétien, les souffrances en Christ, et qu'on n'était plus appelé à vivre selon les convoitises de la chair, hein, l'ivrognerie, les acceptables et les idolâtries criminelles. On avait parlé de Caïn et Abel, hein, comme étant la première idolâtrie criminelle qui avait amené en effet le meurtre sur cette terre par jalousie. Et puis, on s'était arrêté là. Je vous rappelle aussi juste la structure un petit peu du quatrième chapitre. Les versets 1 à 6, on peut donner comme titre Souffrir dans sa chair. Les versets 7 à 11, L'urgence des temps de la fin. Et les versets 12 à 19, donc jusqu'à la fin du chapitre. Les réjouissances au sein de la souffrance. Pourquoi? Et là, il y a un peu des sous-chapitres. Parce que ces souffrances-là éprouvent notre foi. Parce que aussi, on peut se réjouir de ces souffrances. Parce que c'est une participation aux souffrances du Christ. Et troisième petit sous-chapitre, parce qu'elle nous prépare à la gloire de son retour. Il y a une préparation. Les souffrances, elles sont aussi pour nous préparer à la venue du Seigneur. Donc, on est un peu et même beaucoup, hein, sur le thème de la souffrance, mais on est beaucoup de toute façon dans l'épître de Pierre, on est beaucoup dans ce thème-là, la première épître, parce que vous vous rappelez, hein, cette épître a été écrite avant la grande persécution à Rome, sous Néron, hein. Donc, ça se date. L'écriture de cette épître, elle date d'avant cette persécution-là. Et c'est vraiment le Seigneur qui préparait aussi son peuple à rester debout malgré les difficultés qui allaient suivre, hein. Donc on retrouve aussi Paul qui est cette même thématique, hein, où il avait dit, j'ai été libéré de la gueule du lion. Hein, vous vous rappelez, on avait parlé de ça. Et puis qu'en effet, c'était pas seulement symbolique, mais peut-être certainement physique même, que Paul avait échappé à ce jugement, hein. Donc voilà. Alors, on peut reprendre donc à 1 Pierre 4, verset 4, comme ça on est un peu dans le bain, pour étudier la suite. Et puis, lisons deux versets chacun. On peut aller jusqu'au bout du chapitre. Peut-être on n'ira pas là jusque là au niveau de notre étude, mais c'est pas inutile de lire jusqu'à la fin du chapitre. Alors je sais pas, Marie, tu commences. Merci.
Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez plus avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient. Ils rendront des comptes à celui qui est prêt à juger les vivants et les morts.
Car l'Évangile fut aussi annoncé aux morts, afin qu'après avoir été jugés comme les hommes dans la chair, ils vivent selon Dieu par l'Esprit. Excusez-moi, j'ai perdu.
Ça fait 7 après.
J'ai perdu la page. La fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière.
Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. Exercez l'hospitalité les uns vers les autres sans murmure.
Comme de bons intendants de diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout Dieu reçoive la gloire qui lui est due à travers Jésus-Christ. C'est à lui qu'appartient la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen.
Michel, 12.
Non, je ne veux pas lire.
12.
Mais tu veux lire? C'est depuis par là.
C'est 12, voilà, 4, 12. Oui.
Mais, bien-aimés, ne soyez pas surpris de la fournaise, pardon, qui se vit parmi vous pour vous éprouver comme s'il vous arrivait quelque chose d'étrange. Réjouissez-vous, au contraire, de la part que vous prenez aux souffrances de Christ afin d'être aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire sera dévoilée. Alors, le 14.
Si vous êtes insultés à cause du nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Eux, ils blasphèment l'Esprit, tandis que vous, vous lui rendez gloire. Que personne parmi vous n'ait à souffrir pour avoir tué, volé, fait de mal ou pour s'être mêlé des affaires d'autrui.
Mais si quelqu'un souffre comme chrétien, qu'il n'en ait point honte et que plutôt il glorifie Dieu à cause de ce nom. Car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Or, si c'est par nous qu'il commence, quelle sera la fin de ceux qui n'obéissent pas à l'évangile de Dieu?
Et si le juste est sauvé avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Ainsi que ceux qui souffrent selon la volonté de Dieu se remettent à lui comme au fidèle Créateur en faisant ce qui est bien.
Merci. Alors, donc, ce premier sous-chapitre hein, du verset 4, « Souffrir dans sa chair » est donc chapitre 4, verset 4. « Aussi trouve-t-il étrange que vous ne vous précipitiez pas avec eux dans le même débordement de débauche et ils vous calomnient hein? ?» Alors, en effet, hein, on peut être calomnié parce que simplement on cherche à vivre une vie selon le Seigneur, selon la parole. Et puis, c'est à nous aussi, des fois, d'être prudents pour ne pas calomnier les gens qui nous entourent. On est humain, hein, et puis ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas avoir de discernement. Hein, et on peut dire des choses aussi quand on voit qu'il y a... Il y a un frère ou une sœur, mais on verra hein, tout ça. Il y a quelques conseils qui nous sont donnés dans cette épître qui sont intéressants pour les relations entre frères et sœurs. Donc, la calomnie n'est pas neutre hein, parce qu'en effet, on aura des comptes à rendre devant celui qui est prêt à juger les morts et les vivants. Donc, si on est calomnié, on doit simplement et urgemment quelque part, parce que ce n'est pas une option dans la vie chrétienne, et ça vous le savez, on doit pardonner. Hein, tout simplement, on est appelé à se pardonner aussi les uns les autres et à pardonner ceux qui nous calomnient. De façon à ce que aussi devant le Seigneur il n'y ait pas un fardeau inutile qu'on vienne apporter hein. Et c'est vrai que si on n'arrive pas à pardonner ben, quelque part c'est la bénédiction qui nous est retenue aussi hein. On doit bénir nos ennemis afin que la bénédiction nous revienne aussi donc on voit que c'est un autre état d'esprit que celui du monde qui cherchera à se venger Et que Dieu nous aide, parce que notre nature humaine ne fonctionne pas comme ça. Mais le Seigneur, il transforme nos vies et il nous aide à rentrer dans, dans sa pensée et dans sa façon de voir. Verset 6, « Car l'Évangile a aussi été annoncé aux morts, afin que, après avoir été jugés comme les hommes quant à la chair, ils vivent selon Dieu quant à l'esprit. » Si là, on repense à tout l'enseignement, à tout le partage qu'on avait eu la dernière fois par rapport à l'Esprit de Christ qui était prêché aux esprits qui étaient en prison, ce verset 6 peut aussi être un peu mal interprété, de dire « Ah bah oui, voyez, Jésus, il était annoncé l'Évangile aux morts. Hein? » Et puis on se dit « Voyez bien qu'il était dans le séjour des morts prêchant l'Évangile. » Mais là, les morts, c'est qui? Ben, c'est ceux qui n'ont pas Jésus, tout simplement. Hein? Des morts, en fait, on en croise tous les jours.
Des morts vivants.
Des morts vivants. Hein?
Pour Dieu, mais vivants quand on monte.
Mais ça, c'est la bonne nouvelle. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile hein, qui peut aller encore à la rencontre de ces gens. Et ensuite, ils sont appelés, comme nous sommes aussi appelés, à vivre selon Dieu quant à l'esprit. Donc, on voit bien que c'est les choses ici sur cette terre. Ce n'est pas dans l'au-delà. Parce que ce n'est pas dans l'au-delà qu'on va commencer à se poser la question « Est-ce que je vais vivre selon la chair ou est-ce que je vais vivre selon l'esprit ?» Hein? C'est bien ici-bas qu'on a le choix de vivre selon la chair ou de vivre selon l'esprit. Donc, on voit que ce verset encore, il nous indique clairement l'œuvre du Christ dans le temps présent et pas quelque chose lié au passé ou lié après la mort. Hein. Bon, moi, je ne connais pas suffisamment la doctrine catholique, mais on peut se poser la question si certains catholiques ne vont pas s'appuyer là-dessus aussi pour le purgatoire, hein, de dire, voyez, l'Esprit du Christ prêche aux morts. Hein, c'est pas impossible, je sais pas, hein, mais on pourrait s'imaginer prendre un passage comme celui-ci en étant dans une doctrine d'une possibilité de salut après la mort. Hein, et d'ailleurs, il y a tous ces prières aussi pour les morts, c'est à la Toussaint, je crois. Hein. Moi, je ne peux pas la
faire. Ouais, c'est juste, hein.
C'est le 1er novembre, hein, morts, où il ouais, y a la prière pour les morts. Hein.
Ouais, ouais.
Tout saint, tout ce saint, je ne sais pas si ça vient de ça, hein, que quelque part, tous les morts, quelque part, ont cette possibilité du salut. Mais bon, voilà, c'est vraiment quelque chose qui ne colle pas avec l'enseignement des premiers apôtres. Où il est dit que l'homme ne vit qu'une fois et après vient le jugement. Alors voilà, moi je voulais juste prendre cette première partie comme ça un peu en bloc parce qu'on était encore sur ce thème souffrir dans la chair où on avait commencé la dernière fois. Et puis la suite, les versets 7 à 11. Comme sous-titre, on pourrait donner l'urgence des temps de la fin. Alors, je ne sais pas si déjà, là, pour ces quelques versets, 7 à 11, vous aurez quelque chose à dire, ou si vous voulez redire quelque chose aussi par rapport à ce qu'on vient de voir maintenant.
Du reste, dans les psaumes, il dit « Ce n'est pas celui qui est dans le séjour des morts qui peut louer Dieu. » Ça montre bien qu'il n'y a plus.
C'est définitif.
Ouais. C'est définitif.
Ouais. Ah oui, pas pensé à ça.
Oui, je ne sais plus le psaume exactement comment il le dit. Ouais. Mais...
C'est David qui le dit.
Ouais. Hein. Dans le psaume 30 par l'autour.
Ouais, 29 ou 30. Je l'ai changé comme ça, mais.
Oui, il y a cette idée des vivants et des morts, comme tu disais exactement. Hein, c'est. Les vivants, ceux qui ont reçu le Seigneur, et puis les morts, ceux qui ne qui veulent pas croire. Mmh. Et puis ça montre aussi finalement que dans l'au-delà, donc au jugement, ben, que les vivants seront autant jugés aussi que les morts.
Oui,
Hein, oui. Il y a aussi ça. Hein. Le tribunal de Christ.
Mais pas le, meilleur, pas le même jugement.
Non. C'est le tribunal de Christ. Voilà, hein, pour le bien, le mal qu'on aura fait, etc. Mm-hmm. Tout sera dévoilé.
D'ailleurs, on y viendra aussi après.
On y viendra.
Mais bon, je ne sais pas si on y viendra aujourd'hui. Parce que, non, mais c'est bien, c'est tout à fait dans le sens de ce qui est partagé ici dans ce chapitre, hein, que le jugement commence par la maison de Dieu. Donc, on va venir là-dessus. Hein.
Ce jugement de la maison de Dieu, puisque la lettre a été écrite avant Néron, donc avant est-ce que ce n'est pas les souffrances que les chrétiens ont subies, là, c'est la maison de Dieu. Et plus tard, l'Empire romain a été jugé, puisqu'il a été détruit. Je le vois comme ça, tout à coup, mais peut-être, hein, je ne sais pas.
Alors, on peut l'interpréter de toute façon de plusieurs manières, mais c'est clair que des fois, la souffrance, elle est aussi un jugement sur le chrétien, parce que mais ça ne veut pas dire que c'est tout le temps comme ça, hein. Mais la souffrance parfois nous ramène de nouveau auprès du Seigneur. Et puis Dieu peut utiliser la situation de la souffrance pour, c'est un peu toute la suite qu'on va avoir aussi, hein, pour éprouver notre foi. Et puis peut-être des fois pour notre propre sanctification. Parce que si on est vraiment loin du Seigneur, Dieu il connaît nos cœurs, il sait où on se situe. Et puis, c'est vrai que des fois, je pense qu'il peut amener la souffrance dans nos vies pour nous épurer, hein, comme le feu pour l'or. Hein.
Oui, puis quand il y a des péchés, il y a aussi des conséquences. Et puis ces conséquences, bon, il nous pardonne, mais les conséquences, elles sont quand même là. Oui. On le voit aussi avec David, hein, la perte de ses enfants.
Oui, son adultère.
À cause de l'adultère.
Oui, Berchel.
Il a été éprouvé avec Absalom. Non, Absalom, lui, il voulait le tuer, je crois. C'était plutôt le rebelle, le fils rebelle. Non, mais il y avait un autre fils qui est mort, je ne sais plus, je ne me rappelle plus.
Ah, le premier, là, oui. Alors, je sais pas, peut-être.
Et puis, y a d'autres choses. Hein. Mais là, c'était les conséquences de son péché. Hein. Mm-hmm. Donc, il était pardonné, mais y avait la conséquence qui était toujours là.
Oui, et puis on verra, il y a même la conséquence pour l'éternité. Mm-hmm. Pas par rapport au salut, mais on verra. Bon, je ne vais pas tout... Je viendrai avec des versets en appui.
Par rapport à la couronne de vie ou pas, ou etc.
Alors, on viendra après. Ouais. C'est du suspense.
Tout de suite.
On viendra là-dessus avec des versets à l'appui. Hein. Mais en effet, le salut, c'est autre chose. Mais par contre, la position qu'on aura dans le ciel ou pour le millénium aussi... Ben, elle sera aussi différente selon l'obéissance qu'on aura vécue ici sur cette terre. Dieu a, il y a la récompense générale du salut, ça c'est clair. Mais ensuite, on verra avec des versets, hein, que le Seigneur, il rendra un juste jugement aussi sur chacun d'entre nous.
Parce qu'il y en a qui seront sauvés à travers le feu. Voilà. À travers le feu.
Voilà, hein,
une extrémisme.
Voilà, il y en a, il leur restait pas grand-chose.
Ouais.
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 Alors, l'urgence des temps de la fin, comme sous-titre, hein, que je crois qui va bien avec l'époque qu'on vit actuellement. La fin, verset 7, de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, j'aime bien, hein, cette idée de sagesse et de sobriété. C'est-à-dire de retenue, de ne pas s'enflammer non plus, de ne pas partir dans toutes les directions, mais de chercher vraiment à connaître et à comprendre la pensée du Seigneur, d'avoir de la modération. Pourquoi ? Afin de vaquer à la prière. Donc, pour être efficace dans notre prière, il nous faut aussi de la sobriété, il nous faut aussi de la sagesse. Et c'est vrai que si on court de droite à gauche après le super orateur à la mode, hein, bon, je suis déjà venu sur ce thème, mais maintenant c'est un peu plus, ça nous montre aussi que quelque part on risque de passer à côté de la prière, à vouloir tout le temps aller chercher de droite et de gauche. on en oublie la force de la prière et la force de notre propre prière. Et que pour pouvoir être efficace dans la prière, que le Seigneur nous donne sa sagesse et sa sobriété de façon à avoir une vie qui puisse rester centrée sur le Seigneur. Et en ayant une vie centrée sur le Seigneur, ça va produire quelque chose en nous. Verset 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés. On est appelé par le Seigneur à avoir de l'amour envers nos frères et nos sœurs. Et cet amour va couvrir une multitude de péchés. Pourquoi? Parce que si nous on est spirituel, Dieu va nous aider à avoir l'amour du Seigneur dans nos cœurs pour nos frères et nos sœurs. Et je me rappelle une fois j'étais sur le champ missionnaire en Inde, et puis le Seigneur m'avait donné à prier pour un jeune qui était là dans une école biblique en train de faire sa formation pour devenir pasteur. Et puis le Seigneur m'avait donné une pensée. Et j'avais prié pour ce jeune en lui disant que vraiment que Dieu te donne l'amour, parce que tu as un don de discernement, mais ce don de discernement, ça c'est ce que j'ai ressenti sur mon cœur, tu l'utilises pour juger tes frères et tes sœurs. Et puis je me rappelle, il y a tout le monde qui regardait comme ça de la classe, parce que c'était bel et bien ce qui se passait. Ce jeune, il était tout le temps en train de casser ses copains élèves là. Et puis voilà. Hein.
Mais même si c'était justifié, parce que par le discernement, donc il discernait le mal mais pas le bien sur la personne.
Il discernait pas du faux, hein. Il manquait d'amour. Et vu qu'il manquait d'amour, il cassait les gens. Il détruisait, hein, au lieu de construire, c'est ça.
Bonsoir.
Merci beaucoup.
Donc, on va avoir un verset biblique, un parallèle à ce qu'on vient de partager. On n'a pas d'autre but, là.
Tu vois bien.
Ça, c'est bon. Alors, il n'y a plus besoin de lunettes. Hein.
Ouais, non. Verset 8.
On vient de le lire, donc c'est bon.
Toi, tu prends celle-là.
Alors voilà, on est 1 Pierre 4, 8. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité, car la charité couvre une multitude de péchés.
Charité, oui. T'as dit juste après la charité. Il est soutenu le mot charité, mais non, je m'excuse. Avant tout, le 8.
Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente, une ardente charité.
Voilà, un amour ardent.
Moi, j'ai un amour ardent.
Ouais, un amour ardent. C'est énorme, hein. C'est énorme.
Mais déjà, l'amour, c'est déjà pas mal pour les frères et sœurs.
L'amour ardent. Hein. Alors, un passage parallèle, hein. Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituel, redressez-le avec un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Si on voit quelqu'un qui est dans le péché, que le Seigneur nous aide à redresser la personne avec un esprit de douceur et de prendre garde à soi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Et puis aussi parce que nous, on n'est pas à l'abri d'une chute. Rappelons-nous ça. si on voit...
Jacques nous dit, celui qui, voilà. qui ne branche jamais.
Voilà, celui qui se croit être debout, hein, qui prend garde de tomber, hein, c'est la même poussée, en effet. Ouais.
Et le verset 2, c'est quand même significatif, si tu lis la suite, c'est porter les fardeaux les uns des autres. Donc il y a aussi une conséquence, pas une conséquence, mais une relation directe avec ça. Si tu parles, disons, de justement redresser ou comme ça, déjà il faut avoir un tact assez important ou quoi que ce soit, on s'est donné par le Seigneur. Mais c'est aussi dans l'idée de porter ses fardeaux.
Hein. C'est ça, oui. Ouais, c'est juste, on peut lire la suite, hein, parce que... Oui, Anna voulait dire quelque chose.
Mm-hmm. Anna, tu voulais dire
Oui, ça a aussi rapport après avec le verset suivant.
Ah oui, bien sûr, ça fait toute une...
Non, je le retrouve souvent pas, merci.
Exercer
si quelqu'un exercer
l'hospitalité, oui, donc aussi ce lien fraternel aussi,
c'est ça, oui.
Qui représente aussi l'amour fraternel.
Les uns envers les autres sans murmure, hein. C'est ça, hein. on va de toute façon, je dirais aussi deux mots là-dessus, mais oui, c'est tout en lien, hein, en effet. Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. Si quelqu'un, là je suis toujours dans Galate, si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. C'est aussi ce qu'on disait, hein. Si tu penses être debout, fais gaffe. Donc voilà, on n'est pas plus que celui qui s'égare ou que celui qui chute, hein. Donc, que le Seigneur nous aide à être spirituel. Et si je reviens donc au verset 9, exercer l'hospitalité dans 1 Pierre 4, les uns envers les autres sans murmure. Si on le pense à l'Église, on peut penser à l'accueil. Faire bon accueil des gens et sans murmure, hein, sans esprit de jugement. Par contre, je pense qu'on doit aussi exercer pas seulement l'amour dans l'accueil, mais aussi parfois exercer le discernement de façon à ce que on puisse peut-être réaliser que toute personne qui arrive dans l'église ou toute personne qui se dit chrétien ne l'est pas forcément. Donc surtout par rapport à l'époque qu'on vit aujourd'hui, on doit aussi être prudent. Et puis je me permets de donner un exemple. Après, bon, ça va peut-être un peu choquer certaines personnes ici, mais on peut en discuter. Mais il y a eu le décès dernièrement de Billy Graham aux États-Unis, hein, ce fameux évangéliste qui doit être enterré vendredi avec les grands honneurs aux États-Unis. Là, il est actuellement au Capitole et il n'y a que très très peu d'Américains qui ont eu droit à ces honneurs-là, à ces funéraires nationaux, quoi, hein, de l'État vraiment américain. Comme il y a eu Kennedy, il y a vraiment que quelques figures comme ça. Hein. Donc il a un enterrement digne d'un roi. Oui, oui, c'est un peu ça. Ouais. Ouais, ouais. Mais malheureusement, moi j'ai vu deux trois choses sur Billy Graham qui m'indiqueraient, je suis un peu conditionnel, mais qu'il soit franc-maçon.
On a entendu des choses comme ça.
Et puis c'est vrai que j'ai vu un livre qui était édité aux États-Unis par un franc-maçon qui le cite de son ouvrage. Donc cet écrivain franc-maçon américain, il cite des grands personnages de la franc-maçonnerie américaine, dont Billy Graham. Alors bon, après voilà, on peut pas être que sur une information, mais il y en a plusieurs comme ça. Moi j'ai pas fait une recherche. Moi, je me suis intéressé à la franc-maçonnerie parce que j'ai quelqu'un dans ma proche famille qui était franc-maçon. Puis après, je me suis intéressé pas pour pratiquer ça, hein, mais pour essayer de comprendre un peu la spiritualité qu'il y a derrière. Et c'est vraiment une spiritualité démoniaque, hein, clairement. Quand j'ai vu hier une vidéo au moment où son cercueil est sorti, je pense que c'était de l'hôpital, ou est-ce que c'était dans un autre lieu, mais on voit qu'il y a le cercueil qui est vraiment amené c'est le dernier lieu où il a dû vivre parce qu'il est, il est amené dans la voiture funéraire. Et il y a un peu une procession là qui est un peu bizarre. Il y a 6 hommes qui portent le cercueil, là il n'y a rien d'étonnant, mais ils sont habillés les 6 de la même manière, avec un costard à vue comme ça humaine, ça ne paraît pas choquant, hein. Ils ont un costard noir, hein, un complet noir, pantalon, le veston aussi, chemise blanche et cravate rouge, et les 6 personnes sont habillées de la même manière. Et la franc-maçonnerie, après ça dépend les niveaux que les personnes ont atteints, hein, mais suivant quel niveau, ils vont mettre en avant l'alchimie. L'alchimie, c'est quoi? C'est de l'occultisme qui date du Moyen Âge. Et il y a une symbolique de 3 couleurs, noir, blanc, rouge. Et le noir, c'est l'état de brut.
Novice.
Voilà, brut, ouais. Le blanc, c'est le processus de transformation. Et le rouge, c'est quand tu as atteint ton œuvre, hein, tu as ouais, atteint ton statut, quoi. Donc, les enterrements, clairement, les enterrements francs-maçons, il y a toujours une symbolique qui va être mise. Comme ça, les frères de la franc-maçonnerie, ils vont voir les choses, puis ils vont se dire, ah, bah tiens, voilà, ça, c'est un frère qui faisait partie de la loge. Clairement, je vois qu'il y a une symbolique franc-maçonnique. Il y a d'autres choses, hein, comme ça, qu'on peut retrouver après sur les pierres tombales aussi. Voilà, bon, bref. Et là, on voit que le corbillard, il est conduit comme ça dans la voiture. Et puis ensuite, la personne qui ouvre la porte pour mettre le cercueil et puis le refermer, il fait un pas, presque comme un pas militaire pour se remettre sur le côté de la voiture. C'est bizarre. Ça passe. C'est comme si on met en l'honneur un frère. Il y a quelque chose d'un peu de l'ordre de la procession qui est vraiment un peu étonnant. Donc, voilà, moi je pense que si on regarde la cérémonie d'enterrement, il y aura d'autres choses, un lien avec des symboliques franc-maçonniques. Mais que les gens qui ne sont pas initiés là-dedans ou qui n'ont pas connaissance, puis moi je ne connais pas tout, loin de là, mais ils ne verront pas. Par contre, ceux qui font partie et suivant quel rang et jusqu'où ils ont été dans leur initiation, ben, eux, ils verront. Alors, moi, j'ai juste ça pour dire que je ne suis pas en train de pointer du doigt, mais quand même, il y a deux, trois éléments comme ça qui sont surprenants. C'est pas une science exacte, mais de l'autre côté, je vous donnais un de cet exemple-là parce que c'est un exemple actuel, parce qu'on parlait d'exercer l'hospitalité et que en effet, on doit aussi avoir une certaine vigilance parce que tout le monde n'est pas forcément animé par l'esprit du Seigneur.
Moi, j'ai aussi entendu quelque chose avec Billy Graham sur Internet. Maintenant, bon, la question qu'il peut se dire, c'est qu'il a peut-être bien commencé. Il y a des âmes qui ont été sauvées, vraiment beaucoup d'âmes.
Mais c'est comme Gravanzola, c'est la même chose, tous ces cas-là. Il a bien commencé, après il vendait des morceaux de sa tante, comme les Américains, pour tant d'argent. Il a mal fini.
Oui, complètement.
Il y en a beaucoup qui sont inquiétés par ça, parce que c'est le moi. Il faut qu'on doit tous se gaffer de ça.
Alors, c'est pas à l'abri. C'est ce qu'on voit là, hein. Ne prenez pas une image trop grande de lui-même, c'est celui de l'égal à qu'on a vu ça. C'est tout ce qui guette tout le monde, hein, ça c'est sûr.
Il y a beaucoup d'exemples comme
alors,
ça.
Alors qu'il ait mal terminé sa vie, Billy Graham, alors ça c'est possible, hein, par rapport à ça. Ouais, c'est, on a entendu des trucs, effectivement.
Oui, mais bon.
Et puis bon, il aurait pu refuser aussi, bon, arrêtez de parler de ça, mais refuser ces honneurs-là, hein, par testament. Puis vivre dans la simplicité complète, hein. Pas accepter de tels honneurs humains.
C'est aussi qu'il était il a quand même eu une certaine influence. Bon, moi, je suis pas du tout spécialiste de ça, mais de la politique américaine, parce qu'il était quand même à côté des grandes.
Il était connu mondialement, puis il arrivait quand même à 99 ans, hein.
Il est mort à 99.
Ouais.
Pas 91.
Non.
99. Ouais, il avait 99. Ah ouais. Ah, c'est un bel âge.
Ouais.
La prédication de l'évangile, c'est une chose, hein, parce qu'on ne va pas remettre en doute que ceux qui ont entendu l'évangile, et qu'il y a certainement des gens qui se sont véritablement convertis aussi en entendant l'évangile, parce que l'évangile en lui-même, il est puissant. Ce qui est semé est semé.
Si tu prends la parole, ceux qui sont pour lui, puis ceux qui ne sont pas contre lui, même s'il y a des défauts de la cuirasse, on est humain, Dieu se sert de l'être humain pour prêcher sa parole. Tu n'as pas besoin d'être parfait parce que personne ne peut la prêcher en ce moment. Il n'y a rien qui se passe si on attend d'être parfait. Alors là, on ne remet pas en doute ce qu'il a prêché l'évangile, que les âmes, la croix de poignard a ramené beaucoup d'âmes à la conversion.
Mais ça, c'est pas Billy Graham.
C'est
Nicky Cruz. Mais je me fous de ça. Excusez-moi. Enfin, bref.
Oui,
il a amené beaucoup d'âmes aussi. Oui. Mais, puis ces âmes-là, c'est eux envers Dieu. On ne veut pas du tout mettre ça de côté, hein, au contraire.
On se demande quand il a bifurqué, c'est ça.
Voilà, puis moi, je n'ai pas un événement pour vous dire, voilà, tac, mais quand même, il y a plusieurs faisceaux de lumière qui pointent un peu.
Si tu vas sur Internet, ça m'avait choqué. J'étais tombé là-dessus une fois, puis j'avais vu, puis je n'ai pas voulu aller plus loin, mais il parlait justement qu'il avait dévié, qu'il était complètement dans un de ces créneaux-là. Je ne sais plus exactement.
Mais ce n'est pas le seul aux États-Unis. Encore aujourd'hui, hein. C'est vrai que la franc-maçonnerie elle est très influente aux États-Unis, beaucoup plus que chez nous. Moi, je me rappelle, je vous donne un exemple. Il y a 4-5 ans, j'étais en Californie et il y avait un énorme panneau publicitaire sur un immeuble, hein, mais il faisait genre 15 mètres sur 5 mètres de haut. Et puis, c'était marqué homophobia. Et nevermore, plus jamais. Hein? C'était un gros panneau de pub qui était où ils avaient inscrit ça. Et en dessous de l'inscription, il y avait un gros logo franc-maçon pour dire qu'ils osent là-bas se déclarer ouvertement, même en pleine rue. Donc on voit cette pensée de l'homophobie d'où elle vient. Ça vient de la franc-maçonnerie. Et aux États-Unis, je pense qu'elle est plus influente que chez nous encore.
Puis elle touche beaucoup d'autres d'État.
Ça passe aussi les billets banques, les dollars.
Oui, il y a des symboles.
Il y a des symboles de la franc-maçonnerie. Quand tu le plies, ça fait là.
Sarkozy est arrivé à l'échelle 33, qui est la plus grande échelle de la pyramide. Et il était son maître, c'était Bongo, le président du. Pas du Nigeria, mais d'un de ces pays d'attente. Pas le Togo.
Congo.
Le Congo non plus, c'est un petit. Ça va me revenir. Enfin bref, quoi. Mais ouais, il y a tous ces hommes d'État qui sont pris là-dedans aussi. Hein.
Oui, et puis.
Ils ne peuvent pas arriver au sommet s'ils ne font pas partie.
Oui, aussi.
Tous les présidents, même français, même ici, en Suisse, pas tous, mais une bonne partie, ne peuvent pas arriver au pouvoir s'ils ne font pas partie. Parce qu'il y a les Illuminati dessous, il ne faut pas oublier, c'est tout occulte.
Oui, on est dans de la sorcellerie.
Oui, oui.
C'est clair. Hein. Il y a arrivé à un certain niveau du pouvoir, il y a des gens vraiment, ils ne vont pas le dire ouvertement, hein, mais il y a des gens qui sont clairement dans la sorcellerie. Hein. Et ça, pas seulement en Afrique, mais aussi chez nous. Enfin voilà, donc faire bon accueil, oui, mais avec du discernement. Hein. Ensuite, le verset 10, comme de bons dispensateurs des diverses grâces de Dieu, que chacun de vous mette au service des autres les dons qu'il a reçus. La version, parce que ça c'était Pierre qui nous a lu là, c'était pas dispensateur, c'était dit comment?
De bons intendants. Des diverses grâces de Dieu. Donc, littéralement de la grâce variée.
Dispensateur.
Intendant, hein, ça veut dire qu'on a une responsabilité aussi des dons que le Seigneur nous a donnés. Et on doit en faire profiter nos frères.
On ne peut pas faire plus, finalement, que les dons qu'on a reçus. Donc, c'est vraiment...
C'est vraiment pas une exigence absolument.
Mais il faut les mettre au service voilà. des autres.
Ouais, voilà. Oui. Ouais,
si tu les gardes pour toi, ben. Ouais, ouais.
Et ça veut dire qu'on a besoin aussi de nos frères et de nos sœurs.
Ouais,
exactement.
Ouais. On n'a pas tous le même don.
De chacun. Mmh. Oui. Mmh. Mmh.
On peut demander la prière à un frère, on peut demander un conseil. Et puis aussi, le Seigneur peut agir aussi au travers d'un frère, tout d'un coup, pour nous partager une pensée qu'on n'aurait pas imaginée dans une certaine situation. C'est aussi, pas seulement personnel, mais c'est aussi pour le corps du Christ, c'est aussi pour l'Église. De façon à ce que l'Église puisse se fortifier et grandir spirituellement. Et on voit quelques dons ici au verset 11. Si quelqu'un parle dans l'Église, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Afin qu'en toute chose, Dieu soit glorifié par Jésus-Christ, à qui appartiennent la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Donc, il y a les oracles, mais il y a aussi le ministère. Alors, bon, on peut penser au ministère par rapport à un ministère, hein, qu'il soit prophétique, pastoral, ou au niveau de l'enseignement, de l'évangélisation, ou encore l'implantation de l'Église, etc., etc. Mais... le ministère, peut-être vous le savez, certainement, on peut aussi traduire simplement par service. Donc, si quelqu'un remplit, on peut dire les deux, hein, parce que ce passage-là, on pourrait le prendre vraiment dans ces deux sens. Hein, dans ces deux sens. Si quelqu'un remplit un ministère, qu'il le remplisse selon la force que Dieu communique. Hein, c'est Dieu qui remplit le ministère. Mais la même idée, hein, si quelqu'un remplit un service, qu'il le remplisse, hein, qu'il l'accomplisse selon la force que Dieu communique. Donc, c'est le Seigneur qui va nous fortifier pour que chacun d'entre nous, on puisse rendre le service que Dieu attend de nous dans sa maison. Alors, si je reviens sur l'idée des oracles, hein, si quelqu'un parle, que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu, les oracles de Dieu, c'était des sentences qui étaient courtes. Donc, n'ayons pas peur aussi, des fois, si Dieu met une parole à cœur pour l'Église, de la partager. Elle n'a pas besoin de faire 15 pages à 4. Hein. Des fois, le Seigneur, il nous parle par une chose toute simple, une parole toute simple. Et puis après, ben, elle peut peut-être demander interprétation, elle peut demander du temps de maturation. On ne va pas forcément la comprendre tout de suite. Mais il nous est parlé ici d'oracle. Et un oracle, c'est quelque chose de court. Hein. C'est une parole qui est brève. Ce n'est pas un grand prophète qui parle pendant 15 minutes en ayant vu la gloire du Seigneur, bon, ben, tant mieux pour lui s'il l'a vu, mais qui nous fait une description, commençant par Genèse 1 jusqu'à Apocalypse 20, combien 22, je ne sais plus. Bon, bref. Je vous lis juste un petit passage en parallèle, Jacques 3. Jacques 3. Verset 2. Jacques 3, verset 2. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons les morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands, et que poussent des vents impétueux, sont dirigés par un très petit gouvernail, au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps, et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la haine. La langue se vante, verset 5, de grandes choses. Donc, quand on veut exercer le don prophétique, retenons aussi notre langue, hein, ayons de la sagesse. Bon, ici, l'Église, je pense qu'elle a besoin plutôt que les langues se délient. Mais en même temps, le don prophétique, des fois, faisons attention, parce que des fois, alors tout d'un coup, la langue, c'est le délit, mais elle n'arrête plus. Hein. Et puis, ayons aussi de la sagesse par rapport à ça. Hein,
Mais si quelqu'un croit qu'il annonce, moi j'ai des paroles révélées de Dieu, mais on peut le voir aussi dans un autre sens, les paroles révélées de Dieu par la parole de Dieu aussi.
Oui, aussi, oui.
Aussi voir comme ça.
Oui.
Puis, oui, bien sûr. D'un côté, une parole qui vient, mais par. Qui est la Bible, en fait.
Tout à fait, oui.
En principe, c'est toujours authentifié par la parole. Si ce n'est pas par la parole, ça ne vient pas de Dieu.
Ben voilà,
C'est la parole qui fait foi. Parce qu'il y a toujours, si Dieu te parle, il y aura toujours un texte qui va aller dans ce sens, qui va te venir que tu ne penses même pas. On l'a vécu là, ça suffit souvent. Ça venait, les paroles qui venaient de Dieu, au début ça paraissait bizarre, mais il y avait toujours un texte pour l'étayer.
Je ne sais pas si tu voulais donner un témoignage plus précis ou bien.
Non.
Mais des fois un exemple, parce que ça peut être parlant aussi. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui vient.
Ah oui, il y avait quand on était à Saint-Sulpice là, c'était Suzanne qui avait été avertie. Elle avait reçu un texte que l'esprit Python là dans les Actes. Et puis elle dit, mais c'est bizarre qu'elle a reçu ce texte. Puis le soir même, quand on est arrivé là-haut, il y a un gars qui est venu d'Afrique. Il avait un collier autour du cou avec des pics. Et puis il sifflait comme un serpent. On a passé toute la soirée à prier. Ils ont jeûné tout parce qu'il a été libéré de beaucoup de choses. Donc cet esprit de serpent, c'est vraiment un truc de son village qu'il a subi. Mais on était averti avant par la parole. Puis, alors ça, on n'a pas pu aller jusqu'au bout parce que tout le monde n'était pas appelé. Il y en a certains qui ont été appelés, qui sont restés là, priant en langue à côté, des chants en langue et tout. Puis il y a eu des délivrances, mais pas tout, parce qu'il n'a pas tout voulu. Puis il aurait dû rester plus longtemps, là, dans cette maison de Saint-Sulpice. Il y a eu beaucoup de choses, mais il y a eu un avertissement avant. Puis on se disait, mais c'est bizarre cet esprit de serpent et tout. Puis on l'a vécu, le gars, mais il sifflait comme un serpent. Ah, mais il y a des choses de l'ennemi. Il ne faut pas croire que c'est des choses qui
n'existent plus. Ah, mais tout d'un coup, elles se manifestent.
Hein. Et ça se manifeste. Et puis,
il ne faut pas avoir peur de ça.
Ah non. Mais ils n'ont pas pu aller jusqu'au bout parce qu'à un moment donné, lui, il ne voulait plus. Non, il y a des choses. Ça, c'est quelque chose qui reste. Ou bien il y a...
C'était quoi la maison de Saint-Sulpice?
Israël, c'était une maison, c'était des chrétiens qui avaient monté une maison, puis ils accueillaient tous des gens à problème, des filles mères, des alcooliques, des drogués, toutes sortes de gens comme ça. Et puis, bon, moi j'ai été combien d'années là-haut?
Pas mal, je ne veux pas dire combien.
Dizaines d'années, presque. J'étais appelé là, c'était du temps que j'étais jeune, maintenant je ne suis plus que beau. J'étais jeune et beau, maintenant je ne suis plus que beau.
C'est bien
ça. Non, mais c'est vrai.
Il faut dire que c'est un peu la suite de mai 68.
Hein. Voilà, c'était dans ces années-là, après.
Où les gens, où il y avait des communautés.
Des communautés qui
s'appelaient. Voilà.
Et puis ils avaient, dans cette maison précisément, il y avait des appartements avec des couples, des enfants.
Voilà, exactement.
C'était comme un collège, on dirait, cette maison-là.
Tu te rappelles que tu venais avec aussi.
Et puis il y avait des enfin voilà.
Ouais.
Et puis c'était un peu ce courant qui était là, mais ces gens étaient chrétiens.
Chrétiens, après, avec jeunesse en mission qui venaient de et tout, et puis...
Il y avait des drogués...
Oui, de tout, mais il s'est passé beaucoup de choses, là. Bon. Puis après, malheureusement, il y avait dans le village une sorcière, ou des sorcières, et ils n'ont pas voulu combattre par la prière, et puis ça s'est démantelé. Puis la plupart des couples qui étaient là, ils se sont divorcés. Mais c'était dans ces années-là. Mais il y avait beaucoup de combats. Beaucoup de combats, beaucoup de choses, mais ils ont négligé ça, et puis voilà. Voilà, c'était...
On allait ensemble. Enfin,
on mettait trois fois par semaine. Bah, y a des fois, je me demande comment je faisais. Je rentrais de là-haut, c'était 4h30 du matin, puis à 5h, j'étais au boulot.
Oh là là.
On prenait les enfants avec. Ouais. Enfin, les deux aînés.
Tu prenais ta guitare.
Mais tu vois, c'est ce que dit le verset, avec la force que le Seigneur te donne.
Oui, oui, oui.
Parce que le Seigneur, il nous donne la force. Nous, on a eu fait ça aussi avec
nous. À ce moment-là, on a vécu des choses que... Oui, oui.
Ah ouais.
Mais bon, c'est des temps que le Seigneur permet. Enfin, bref.
Bon, c'est aussi verset 7, hein, la fin de toute chose est proche. Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Alors, des fois, on peut aussi être entraîné dans plein d'activités à l'extrême, et puis on va manquer un peu de sagesse. Je ne sais pas, hein, mais là, on doit aussi être vigilant dans notre vie spirituelle, parce que je ne crois pas que Dieu nous demande... Merci Seigneur pour les temps, c'est magnifique, hein, si on peut passer une veillée de prière, gloire à Dieu. Mais n'empêche que le lendemain, quand il faut reprendre le boulot...
Ouais, bon, c'était pas toutes les fois comme ça non plus.
Hein. Et puis bon, la prière, c'est quand même pas quelque chose qui coule de source, je dirais. Parce que là, on parle « livrez-vous à la prière », donc c'est un exercice, hein. Moi, j'ai ça pour moi, parce que moi, je ne suis pas un homme de prière, malheureusement, hein, je le dis. Hein. C'est vrai que... Puis ça, c'est la vie chrétienne, quoi. Hein, c'est vraiment... C'est le poumon, je ne sais pas comment on peut dire.
Oui,
ouais.
Il faut faire
attention de ne pas se relâcher aussi.
Voilà.
On reste plein d'élan, puis après...
Puisque bien dans cette époque-là, ce village, c'était Saint-Sulpice, il y avait même le pasteur de l'église protestante qui était né de nouveau. Les gens du village allaient à l'église, puis on pouvait prêcher l'évangile là à l'église, on pouvait faire beaucoup de choses. C'était vraiment une époque
de renouveau.
De renouveau. C'était étonnant. Enfin, bref.
Oui. Bah, il faut aspirer aussi à ces choses-là encore aujourd'hui, hein, parce que Dieu agit encore, c'est clair. Et on s'attend à lui. Je pense que ça commence par la prière, en effet, et puis par l'amour fraternel, par le bon accueil qu'on peut se donner les uns les autres, par le service, hein, aussi dans la maison du Seigneur. Ça ne veut pas dire qu'on doit en faire chaque jour plus, hein, c'est pas ça. Selon la force que Dieu nous donne, on n'a pas à dire stop aussi quand on n'a plus la force. Hein. Et puis, exercer l'hospitalité, et puis aussi la prophétie, l'importance des dons charismatiques. Dieu, encore aujourd'hui, peut libérer. On doit s'attendre à ça. Alors voilà, on va rester là pour ce soir. Merci d'être venu, de vos commentaires. Et puis, dans un mois, je fais un peu de pub, hein, sur Internet comme ça. Merci.